Donc je disais, Galates chapitre 5, verset 1er, je vais lire au nom de Jésus. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Donc ce matin, j'aimerais développer un thème, ou m'entretenir avec vous sur un thème, la liberté en Christ. La liberté en Christ. Quand on parle de la liberté, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui viennent en tête. On se dit beaucoup de choses. Pour beaucoup de gens, la liberté, c'est l'autonomie, l'indépendance. Je fais ce que je veux, quand je veux, et personne ne me dit rien. La liberté dans notre vie chrétienne et dans notre société, c'est un concept important. Un concept important, pourquoi ? Parce que si nous les comprenons bien, alors il peut transformer nos vies et nous aider à bien vivre avec le Seigneur, mais aussi à bénéficier de tout ce que le Seigneur a pour nous. Liberté en Christ, un concept qui peut radicalement changer et transformer notre vie quotidienne et notre compréhension de notre relation avec Dieu, mais aussi avec les autres. Liberté. Et notre devise en France, c'est quoi ? Et fraternité, très important, liberté, égalité et fraternité. Mais qu'est-ce que ça veut dire, liberté ? C'est quoi la liberté ? Est-ce juste le fait d'être libre de faire ce qu'on veut ? Libre de vivre comme on veut ? Libre de décider ce qu'on veut ? Libre d'aimer qui on veut ? Libre d'épouser qui on veut, libre de se transformer quand on veut. On est né dans un corps qu'on n'aime pas, on change, on devient autre. On rencontre des situations, on n'aime pas le visage qu'on a, on change, on devient autre. C'est seulement ça la liberté. Croyez-moi, la liberté est très importante. Parce qu'elle affecte tout ce que nous sommes. Et Dieu qui nous a créer une des choses, une des bénédictions qu'il nous a donné, c'est cette liberté de choisir de le suivre ou cette liberté de choisir de ne pas le suivre parce qu'il nous a créé avec cette capacité de choisir et de dire, Seigneur, j'aimerais te suivre ou alors de choisir et dire, Père, je ne veux pas de toi, je vais faire ce que je veux. Mais ce qui est important à savoir que de tous ou à toutes nos décisions, tous nos choix sont attachés aussi, ou en sont attachés des conséquences. Ce que nous choisissons de faire, la manière dont nous choisissons de vivre est accompagnée des conséquences. Bien que nous soyons libres de choisir le Seigneur ou de ne pas le choisir, il y a toujours des conséquences qui sont attachées à nos choix. Mais cette forme de liberté que la société nous présente, sous forme d'indépendance, d'autonomie. On est content de la vivre ou bien de bénéficier de cette liberté, mais à un certain moment, elle conduit aussi à une autre forme d'esclavage. On se sent esclave de certaines choses, de certains concepts, de vouloir plaire, de vouloir ressembler à, de vouloir faire comme, même si on sent que c'est notre liberté. Mais ça nous pousse encore à un certain esclavage au point qu'on n'est plus libre de vivre tout ce que Dieu a prévu pour nous. La liberté. Mais la liberté en Christ, c'est autre chose. La liberté biblique nous présente une autre perspective plus profonde et plus épanouissante. Elle nous épanouit parce qu'elle nous appelle à vivre librement tout ce que Dieu a prévu pour nous. La liberté malsaine, c'est cette liberté qui nous éloigne de Dieu, qui nous amène à penser que nous sommes Dieu pour nous-mêmes, pour décider ce que nous voulons et faire ce que nous voulons. Et c'est ce que le diable a présenté à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a dit, vous n'avez pas besoin de Dieu. Vous pouvez être libre de faire ce que vous voulez, être Dieu pour vous. Mais la liberté en Christ, cette liberté qui nous connecte à Dieu, mais qui nous aide à vivre tout ce que Dieu a créé pour nous. Cette liberté en Christ nous libère de l'esclavage du péché. Elle nous libère de l'esclavage du légalisme. Elle nous libère de l'esclavage de la peur, nous conduisant à une vie de paix et une vie de joie dans dans le Seigneur, qui ne voudrait pas vivre une vie de paix et une vie de joie. Elle n'est pas venue. On aimerait tous vivre une vie de paix et de joie. Et dans le Seigneur, je le dis, elle nous libère de l'esclavage du péché. Elle nous libère de l'esclavage du légalisme. Elle nous libère de l'esclavage de la peur. L'esclavage du péché. En Christ, nous sommes libérés du péché. Sans Christ, nous sommes tous esclaves des non-péchés. C'est ainsi que la Bible dit dans Romains chapitre 6, versets 16 à 18. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes des esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu. » Est-ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Il dit, ne savez-vous pas que vous étiez tous esclaves du péché? Esclaves du péché parce que nous sommes nés d'Adam. Adam et Ève, ils ont commis le péché originel et nous, en tant qu'humains, nous avons hérité de ce péché. Quelqu'un va dire, mais pasteur, je n'étais pas là. En quoi suis-je concerné par leur péché? Tu n'étais pas là, mais tu viens d'eux. Nous venons tous de cela. Et c'est pour ça que nous naissons tous avec cette sémence du péché en nous. Et la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le péché nous condamne à être loin de Dieu. Le péché nous condamne à être esclaves au péché, à ne faire que ce qui déplaît à Dieu. Mais la Bible dit, vous avez, en Christ, vous avez été affranchis. Vous avez été affranchis du péché et ce pouvoir du péché qui vous lie à ce désir. Ou à cette manière de vivre qui nous éloigne toujours de Christ. Et Paul pourra dire, plus tard, il dit, « Misérable que je suis !» Il dit, « Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je ne voudrais pas, que je fais toujours. » Il parle de cette captivité que nous avons au péché. Mais Christ est venu pour nous libérer de ça, pour que nous soyons affranchis. Franchi du péché. Cet esclavage au péché signifie que nous sommes contraints d'agir contre la volonté des dieux. Nous sommes liés à notre propre nature pécheresse. Il y a des choses qu'on fait et après on se dit pourquoi je fais ça? Pourquoi je vis de cette manière? Pourquoi je marche toujours? Je me promets à moi-même, je dis demain je ne referai pas la même chose. Mais après demain je me retrouve dans la même situation. Nous sommes contraints par cette nature pécheresse à retomber dans le péché. Nous recevons en Christ la puissance de surmonter tous les comportements des pécheurs et de vivre une vie qui plaît à Dieu. C'est en Christ que nous pouvons trouver cette capacité de nous affranchir du péché, d'être libres contre le péché et d'être en mesure de marcher dans la voie qui plaît et qui honore Dieu. Car la parole de Dieu l'est dit dans Romains chapitre 6, verset 22. Il dit, « Maintenant, étant affranchis du péché, et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous êtes affranchi du péché pour vivre pour Dieu. Et vivre pour Dieu, c'est vivre tout ce que Dieu a prévu pour vous. Cette liberté du péché n'est pas une licence pour pécher. Juste parce qu'il a libéré de la puissance du péché, ça ne veut pas dire que nous sommes maintenant libres d'aller faire ce que nous voulons. Parce que nous sommes libres, mais il nous a délivrés du péché pour que nous ne soyons plus obligés de retomber, de vivre la même chose. En Christ, nous avons la liberté sur le péché. Christ est monté sur la croix pour nous délivrer et nous libérer du péché. Nous ne sommes plus obligés de vivre de la même manière. Il y a des choses que nous ne pouvons pas abandonner par nous-mêmes. Il y a des choses que nous ne pouvons pas arrêter de faire par nous-mêmes. Nous avons besoin de Christ. Et Christ a tout accompli à la croix pour que nous soyons en mesure de dire non au péché et de commencer cette marche avec lui. Je dis commencer parce qu'elle commence petit à petit avec le Seigneur. Nous sommes libres, libres du péché. Le péché n'a plus d'emprise sur nous. Le péché n'a plus de pouvoir. pouvoir sur nous. Cette liberté en Christ, elle nous libère contre le légalisme. Elle nous libère contre la loi. La loi n'est pas mauvaise. La loi a été envoyée par Dieu. Et Dieu qui a envoyé la loi, c'est pour que l'humain se rende compte de son incapacité de se sauver par lui-même. Dieu a envoyé la loi pour que l'humain, en face de la loi, il se rende compte qu'il ne les paie pas. Quand tu vois tout ce que Dieu attend, tu te dis, Seigneur, je ne peux pas y arriver, laisse tomber. Le légalisme, c'est le fait de penser que nous pouvons plaire à Dieu par nous-mêmes. Nous pouvons, par nos actions, nous sauver. Nous pouvons, par nos actions, attirer la faveur de Dieu. Alors que par ce que nous faisons, nous ne sommes pas capables d'atteindre la perfection que Dieu attend de nous. Personne ne peut se libérer, je l'ai dit en parlant du péché, personne ne peut se libérer de l'emprise du péché. Et donc, devant la loi, ne pense pas que tu es capable de devenir saint ou bien d'attirer la faveur de Dieu par le fait de faire certaines choses. Dieu ne t'aime pas parce que tu agis d'une certaine manière. Dieu ne t'aime pas plus parce que tu marches d'une certaine manière. Dieu t'aime par la grâce. Car tous ont péché, tous, sans exception. Et c'est la grâce qui nous amène vers Dieu. Ce n'est pas nos actions. Ce ne sont pas nos actions qui nous ramènent vers Dieu. C'est la grâce que Dieu nous a offerte, que Dieu nous a offerte par Jésus-Christ qui nous donne accès à Dieu. Dans Galates chapitre 3, versets 23 à 25, la Bible dit ce qui suit. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues de la loi. Donc la loi, Dieu l'a envoyée pour nous préparer au fait à la venue de Christ, pour nous montrer que nous avons besoin d'un sauveur, pour nous montrer un peu le désir d'un sauveur qui pourra nous tirer de cette manière de vivre qu'on ne pouvait pas arrêter par nous-mêmes. Et la Bible dit, et lorsque Christ est venu, nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne dépendons plus de la loi, mais nous dépendons de ce que Christ est venu faire. Et ceci, c'est par la foi que nous les vivons. Nous croyons en ce que Christ a fait. Nous acceptons ce que Christ nous a donné. Et là, nous avons la faveur de Dieu par la grâce et non par nos actions. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce seule. Pas la grâce, ce n'est pas la grâce et tes actions. Ce n'est pas la grâce et quelque chose d'autre. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Seule par la grâce. Il n'y a pas de salut en dehors de la grâce. Et quelqu'un a dit, donc s'il y a la grâce qui nous sauve, peu importe comment je vis, alors je vais plaire à Dieu. J'ai dit non. La grâce vient pour nous tirer de cette manière de vivre qui n'honore pas Dieu, afin de nous amener à vivre comme Dieu voudrait. La grâce nous tire du péché pour que nous puissions vivre une vie qui honore Dieu. Dans Romains chapitre 6, verset 5, la Bible dit ce qui suit. Pécherions-nous donc parce que nous sommes sous la parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Avant ça, la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce. Alors, parce qu'il y a maintenant la grâce qui surabonde, suis-je appelé à pécher comme je veux parce qu'il y a la grâce? J'aime la réponse de la Bible. Il dit, non, loin de là. Une réponse brève, mais concise. Loin de là. Un peu pour dire, tu t'es trompé. Si tu penses que la grâce vient te donner cette licence de pécher comme tu voudrais, de vivre comme tu voudrais, alors tu es en train de te tromper. La grâce vient pour nous donner la capacité d'honorer Dieu. Il y a mon pasteur qui dit toujours, si tu as goûté à la grâce, alors le péché n'a plus le même goût. Si tu as goûté à la grâce de Dieu, tu n'as plus besoin de revenir dans cette vie de péché parce que tu as goûté à la bonté de Dieu. Écoutez, quand nous parlons du salut, c'est quelque chose de réel. Elle nous tire vers quelque chose de pas bien pour nous amener à quelque chose de très bien. La grâce de Dieu est venue nous trouver dans le péché, loin des dieux où nous étions, pour faire de nous fils et filles des dieux. Elle nous a lavés, nous a transformés. Tout ce que nous étions sans Dieu, Dieu nous l'a enlevé par la grâce. Pour comprendre la grâce de Dieu, pour comprendre le problème qui était en face de lui-bas, la Bible dit, comme je l'ai dit avant, tout. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Destinés tous à la mort, nous étions. Et personne ne pouvait se sauver de cette mort. Le péché nous a conduits tel qu'il voulait. Et personne n'avait le choix de s'en débarrasser. Et la grâce est venue. Elle nous a lavés. Elle nous a amenés. Imaginez quelqu'un qui est condamné. En face du juge, on a déjà déclaré, condamné à mort. Mais la grâce, c'est quoi? Dans cette grâce, Dieu nous donne d'abord sa miséricorde. C'est quoi la miséricorde? J'avais posé cette question à des étudiants quelque part. Un jeune homme s'est levé, il a dit, miséricorde, c'est cette corde qui nous tire de la misère. J'ai dit, c'est intéressant. La miséricorde, c'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est quand Dieu ne te donne pas la punition que tu mérites. Pour tes actes, pour tes actions, tu mérites une certaine punition. Tu mérites certaines conséquences, comme je l'ai dit. Et Dieu annule le sort de ton péché. Et ça, c'est ce qu'on appelle la miséricorde. Et dans cette même grâce, non seulement il annule punition, non seulement il annule le mal que tu méritais, il te donne le meilleur que tu ne mérites pas. Donc, toi qui étais condamné à la mort éternelle, Dieu, non seulement il enlève cette mort éternelle, mais il te prend de là et il t'amène à la vie éternelle. Toi qui étais destiné à ce qui n'était pas bon, à la souffrance éternelle dans le péché, non seulement il annule cela, mais il te prend et il te dit, tu deviens mon enfant, mon fils, tu deviens ma fille. C'est ça la grâce de Dieu. Alors lorsque nous comprenons la grâce, le péché n'aura plus le même cours. Qu'est-ce que le péché peut nous offrir de meilleur que ce que Dieu nous a offert? Lorsque tu comprends ce que Dieu, la qualité de ce que Dieu t'a offert, alors le péché, tu le verras de loin, tu te diras, non, j'ai mieux que ça. J'ai mieux que ça. Dieu m'a donné mieux que ça. Peu importe le plaisir que le péché peut te présenter, Dieu a donné meilleur que ça. Et nous savons que ce que nous commençons ici ira jusque dans l'éternité. Et dans l'éternité, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de souffrances, il n'y aura pas de morts, il n'y aura que la joie et cette joie éternelle. Et ici, j'aimerais nous dire, lorsque nous pensons à cette vie éternelle aux côtés de Christ, nous ne pouvons pas imaginer tout son contenu. C'est au-delà de ce que nous pouvons comprendre. C'est pourquoi la Bible dit, les choses que l'œil n'a point vues, ces choses que l'oreille n'a point entendues, ces choses qui ne sont jamais montées dans la pensée de l'homme, ce sont des choses que Dieu a préparées. Cette éternité aux côtés de Dieu ne ressemble à rien à ce que nous avons déjà connu, à ce que nous avons déjà expérimenté. Tu connais la joie, tu connais la paix, mais la paix que Dieu prépare va au-delà de tout ce que toi tu peux comprendre. La joie que Dieu prépare va au-delà de ce que toi tu peux comprendre. Et lorsque tu comprends la grâce qui te donne accès à cette joie, qui te donne accès à cette éternité, alors le péché n'aura pas le même cours. Donc la grâce vient non pour nous donner licence de faire ce que nous voulons, mais la grâce vient pour nous donner la force de ne plus faire ce que nous ne voulons pas. Le péché nous oblige à faire ce que nous ne voulons pas. La grâce nous donne la grâce de ne plus faire, la force de ne plus faire ce que nous ne voulons pas. Et ici, je suis venu encourager quelqu'un à y dire, écoutez, peu importe ce que le diable, le monde présente, il n'y aura rien de meilleur. La Bible dit, parlant du diable, qu'il ne vient que pour dérober, détruire, et voler et tuer. Même quand il va te présenter quelque chose qui semblait bon, il est juste en train de voir quand est-ce qu'il va te tuer. Quand est-ce qu'il va te dérober? Quand est-ce qu'il va te faire mal? Parce que le diable n'est pas ton ami. Il ne voudra jamais du bien à quelqu'un parce qu'il n'y a rien de bon dans ce que le diable est. Et là, Alors, nous sommes appelés, pour vivre cette liberté en Christ, nous sommes appelés à comprendre le contenu de la grâce, le meilleur que Dieu nous a donné par la grâce. Parce que lorsque tu goûtes à cette grâce, tu comprendras que non, ce ne sont pas mes actions. Et même quand tu marches dans une vie qui plaît à Dieu, ce n'est pas parce que toi tu es bon. Ce ne sont pas seulement tes disciplines. Quelqu'un est venu me poser une question il y a quelques années. Il me dit, Patrick, je te connais depuis plusieurs années. Tu as toujours vécu une vie constante dans ta foi. Je lui ai dit, gloire à Dieu parce que c'est ce que toi tu vois. Moi je ne vois pas la constance. Moi je vois les hauts et les bas. Mais si toi tu vois une vie constante, et puis il me dira, c'est quoi ton secret? Je lui ai dit, si c'est créé à deux choses, ma petite discipline et la grande grâce de Dieu. Je ne suis pas resté debout parce que je suis discipliné. Je suis resté debout parce qu'il y a la grâce de Dieu qui m'a soutenu. Ma discipline sans la grâce de Dieu, elle n'aura pas d'impact. Ma discipline sans la grâce de Dieu, elle ne fera rien. C'est la grâce de Dieu qui nous garde attachés à Dieu. Nous ne sommes pas attachés à Dieu parce que nous sommes bons, parce que nous sommes grands, parce que nous sommes forts. Nous sommes attachés à Dieu parce que Dieu nous a fait grâce. Et le légalisme, c'est des pensées que non, quand je fais, alors Dieu m'aimera plus. Quand je ne fais pas, alors Dieu m'aimera moins. Dieu ne t'aime pas parce que tu fais. Et Dieu ne t'aimera pas parce que tu ne fais pas. C'est ici que j'aimerais dire, chrétiens, nous ne faisons pas pour attirer la faveur de Dieu. Nous faisons parce que nous avons reçu la faveur de Dieu. Chrétiens, nous n'agissons pas pour plaire à Dieu, mais chrétiens, nous agissons parce que Dieu nous a fait grâce de lui plaire. Nos actions, ce ne sont pas pour nous sauver, mais nos actions, c'est parce que nous sommes sauvés. Il y a un jeune homme qui est venu me poser cette question il y a au moins peut-être 10 ans. Il m'a dit, Patrick, là tu t'es dit chrétien, tu es en train de suivre Christ. Tu as abandonné les petites copines du quartier. Tu n'es plus dans une vie de débauche. Tu n'es pas dans une. On ne te voit plus dans cette vie de débauche. Mais dis, imagine, après avoir fait tout ce que tu fais là, tu meurs. Et tu te rends compte qu'il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de ciel. Tu ne vas pas regretter toutes ces demoiselles que tu as laissées au quartier là. Tu ne vas pas regretter tous ces temps et toute cette discipline. Il dit, tu meurs, tu te rends compte que c'était faux. Il n'y a même pas d'enfer, il n'y a même pas le ciel. Tu ne vas pas regretter tout ce que tu as raté. Nous, on est en train de vivre la vie, de croquer la vie. J'ai dit, écoute, jeune homme, il n'y a pas une arme braquée sur ma tête pour me dire, Patrick, fais pas. Patrick, fais ça. Ce que je fais, c'est ce que je choisis de faire. Ce que je ne fais pas, ce n'est pas parce qu'il y a eu une arme sur ma tête. J'ai choisi de ne pas le faire. Et c'est avec joie et avec plaisir que je ne fais pas ce que je ne fais pas. Et ce n'est pas que je vis une vie de souffrance et de douleur. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de je vis une vie, j'aime ma vie. J'aime bien ce que je suis en train de vivre avec le Seigneur. Donc du coup, je ne pense pas que je suis en train de perdre quelque chose. Je dis, mais au contraire. Après avoir vécu comme tu as vécu, toi, tu as fait tout ce que toi tu es en train de faire. Quand tu meurs, et tu te rends compte qu'il y avait réellement un ciel, il y avait un enfer. Tu ne vas pas regretter. Après avoir fait tout ce que tu as fait, conduit ta vie comme tu l'as conduit, et tu meurs, tu te rends compte qu'il y a réellement le ciel, il y a réellement l'enfer. Tu ne vas pas regretter ce que tu as fait. Je dis, non, moi je n'ai rien à perdre parce que j'aime ce que je vis maintenant. Et je sais que ce qui est à venir est encore meilleur, mais à toi. Tu as beaucoup, si pas tout à perdre. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de grâce. C'est maintenant qu'il faut saisir cette grâce et comprendre que par cette grâce, nous avons la vie, la liberté de nos actions. Nous sommes libres de la loi. Parce que ce n'est pas la loi qui nous sauve. Troisième chose, nous avons la liberté sur la peur. Il nous a libérés de la peur. En Christ, nous avons été libérés de la peur du jugement, la peur de l'avenir, la peur de la mort. Ce sont des choses qui peuvent paralyser notre vie. Quand il y a la peur, on ne peut plus rien faire. Le malheur, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la peur. De chrétiens qui vivent encore dans la peur de l'enfer. De chrétiens qui ne sont pas sûrs, qui sont libres de l'enfer. Écoutez, si vous n'êtes pas encore sûr de votre salut, vous n'avez pas compris ce que Christ a accompli sur la croix. Une des choses que Christ a accompli sur la croix, il nous a libérés de la mort. On vient de les chanter, on va les chanter tout à l'heure, la mort n'a plus d'emprise sur nous. Lorsque nous sommes en Christ, nous avons la vie éternelle. Ce n'est pas que nous aurons la vie éternelle, nous l'avons déjà. Même si la mort arrivait maintenant, nous savons que nous vivrons éternellement. Parce qu'en Christ, lorsque tu as donné ta vie en Christ, tu devrais être sûr que tu es sauvé. Tu ne vas pas te battre pour ton salut. Tu l'as déjà. Écoute, c'est par la grâce que tu es sauvé. C'est par la grâce que tu resteras sauvé. Tu ne restes pas sauvé par tes œuvres. Je le dis, les œuvres sont parce que je suis sauvé. C'est parce que je suis sauvé que je dois agir et vivre d'une certaine manière. Donc si je suis sauvé et que je continue, si je me dis sauvé et que je continue à vivre comme un pécheur, on va remettre en cause ses saluts parce qu'il n'est pas là. Pourquoi on vit dans la peur? Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la peur des démons. Ils sont dans la peur des sorciers. Surtout en Afrique, il y a quelqu'un qui voit un chat noir. Au nom de Jésus, le chat, il a fait quoi? Il a fait quoi le chat? Je ne nie pas l'existence des sorciers. Je ne nie pas l'existence des démons. Mais est-ce que tu connais ce que toi tu as? Est-ce que tu connais qui tu es? Pourquoi vivre dans la peur? En Christ, il est venu nous libérer de la peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de l'ennemi. Les combats spirituels existent. Le diable, il existe et il nous combat, ça c'est sûr. Mais dans ces combats, nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Parce que Christ a déjà remporté la victoire sur la croix. Et le diable le sait. Quand il vient juste pour essayer de tenter de voir si toi tu sais. C'est quand tu ne sais pas. Il va bien te ronger parce qu'il s'est dit, oh, il y a quelqu'un ici qui ne sait pas. Le diable sait qu'il a été vaincu. Est-ce que toi, tu le sais? Quand il vient, et il viendra avec toute sa force, et des fois, ça fera mal. Mais tu ne dois pas vivre dans la peur. Parce que Christ nous a donné la victoire. Il nous a donné la vie qui est éternelle. En Christ, nous recevons un esprit de puissance, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Nous avons l'assurance de notre salut, de l'amour qui ne peut pas être épuisé de Dieu envers nous. En Christ, nous avons cette assurance qui nous donne le courage de faire face aux défis de la vie. Et ceci avec confiance, sachant que celui qui est avec nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Qu'est-ce que je dis? Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Le serviteur d'Élisée, alors qu'il était en face de l'ennemi, il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire en face de cette grande armée? Et Élisée, il a dit, Seigneur, ouvre les yeux de c'est temps pour qu'ils voient que ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Lorsque nous sommes sauvés, Christ vient, il habite en nous, dans toute sa gloire et toute sa victoire. Et comme pour dire que le diable ne peut pas résister devant Christ. Quand tu sais que tu es en Christ, alors tu n'as pas besoin de craindre le diable. Les sorciers ne peuvent rien sur toi parce que tu connais ton identité, ce que Christ a déjà accompli sur la croix. Et dans 1 Jean, chapitre 5, verset 11 à 13, la Bible dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie est dans son Fils. Celui qui est le Fils, celui qui a le Fils, a la vie. Il ne dit pas celui qui a le Fils aura la vie. Si tu as déjà le Fils, sache que tu as la vie. Pourquoi tu crains pour ton éternité? Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Pas pour que vous sachiez que vous l'aurez. Je vous ai écrit ces choses pour que vous sachiez que vous l'avez déjà. Pourquoi vous craignez pour votre éternité? Si vous n'avez pas d'assurance du salut, je suis venu vous dire, si vous êtes en Christ, vous êtes réellement sauvé. Et vous avez la vie éternelle. Que le diable ne vienne pas pour vous faire peur et vous dire, est-ce que je suis sauvé réellement? Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous qui avez cru, vous qui avez reçu Jésus, vous avez la vie éternelle. Et c'est ça la bonne nouvelle. La mort viendra, la mort arrivera. Mais pour nous, la mort n'est pas la fin de la vie, c'est l'introduction dans cette vie qui est éternelle. C'est pourquoi, assure-toi que tu as cru en Christ, que tu as donné ta vie en Christ, parce qu'en Christ, tu as la vie, cette vie qui est éternelle. Et dans Romains chapitre 8, versets 38 à 39, la Bible dit ce qui suit, j'ai l'assurance. Il dit, je ne doute pas, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, donc même l'inconnu. Mais des choses que je connais, des choses ici présentes, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit, je ne doute pas, j'ai l'assurance, j'en suis sûr et certain que ce n'est pas la mort qui me séparera, ce n'est pas la vie qui me séparera, ce ne sont pas ces choses à venir, ce ne sont pas ces choses que je vis maintenant, qui me sépareront de l'amour de Dieu. Et dit même des choses qui sont en hauteur, des choses qui sont en profondeur, là où le diable se cache, il n'y a rien qui me séparera de l'amour de Christ. J'ai l'assurance, et cette liberté en Christ nous donne cette assurance. C'est lorsque nous avons l'assurance de ce que Christ a accompli pour nous, que nous pouvons vivre cette vie de liberté. Il y a l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Même, donc pour dire, même les petits démons là, les sorciers, le diable, même les anges, s'ils essayaient, rien ne me séparera de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu que j'ai reçu en Christ. Rien, rien du tout. Il dit, j'ai l'assurance. Alors n'aie pas peur, parce qu'il a tout fait, il a tout accompli pour nous. Rien ne devrait nous faire peur, car rien ne pourra nous séparer de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Et dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, la Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité, ni un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. En Christ, comprenons ce que nous avons. Il nous a libérés de la peur. Et cette liberté que nous avons en Christ n'est pas seulement théorique. Cette liberté, c'est vie dans la vie de tous les jours. Pratiquement, nous vivons et nous sommes appelés à vivre cette liberté que nous avons en Christ. Elle a des implications pratiques sur notre manière de vivre chaque jour. Cette liberté nous appelle à une vie de service, une vie de croissance, une vie d'adoration, transformant nos relations avec Dieu et transformant nos relations avec les autres. Lorsque nous vivons cette liberté en Christ, elle nous équipe pour tenir ferme contre les forces qui cherchent à nous ramener en esclavage. Le diable essaiera toujours, mais cette liberté en Christ, elle nous donne la force de dire non aux sollicitations du monde, aux sollicitations du diable. C'est ainsi que la Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 1, que nous avons lu en commençant. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il dit, il y a possibilité qu'on vous ramène sur le joug de la servitude. Il dit, mais c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Quelle tautologie, quelle répétition. C'est pour la liberté qu'il vous a libéré. Il ne vous a pas libéré pour que vous demeuriez condamné, que vous demeuriez esclave. Mais c'est à la liberté qu'il vous a appelé. C'est pour la liberté qu'il vous a libéré. Vous êtes libéré. La Bible dit, celui qui a le Christ, il est affranchi, il est libéré réellement. Si le Fils de Dieu t'enfranchit, si le Fils de Dieu te libère, alors tu seras réellement libre. Il ne dit pas tu seras partiellement libre. Il ne dit pas tu seras potentiellement libre. Tu seras réellement libre si tu es libéré par le Fils. Alors il dit, c'est pour la liberté qu'il vous a affranchi. Ce n'est pas pour la servitude. Ce n'est pas pour que vous laissiez encore influencer par les choses qui vont vous amener dans la servitude. Servitude, c'est cet état de dépendance totale d'une personne qui est soumise, soumise au péché, soumise au monde, soumise à toutes les sollicitations de ce monde. Il dit non, 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 vous n'êtes plus appelé à vivre dans la soumission au péché. Vous n'êtes plus appelé à vivre dans la soumission au comportement de ce monde, aux attitudes de ce monde. Vous avez été affranchi pour être libre et réellement libre. Donc vivez cette liberté que Christ vous a donné. Et la Bible dit, ce que Christ a accompli sur la croix, c'est pour que vous soyez libres, et que vous soyez réellement libres. Pas pour que vous viviez comme des esclaves du péché, du monde, ou de votre entourage, car il nous a affranchis pour vivre libres en lui. Et la véritable liberté, nous ne pouvons la vivre qu'en lui. Ce n'est pas en dehors de Dieu. Ce n'est pas en dehors de Christ que nous pouvons vivre notre liberté. Je l'ai dit en commençant, quand j'ai parlé de comment notre société nous présente le concept de la liberté. Après avoir choisi ce qu'on veut, après avoir conduit sa vie de la manière dont on veut, en fin de compte, on se rend compte qu'il y a un vide qui reste. Mais ce n'est qu'en Christ que nous pouvons vivre la vraie et la véritable liberté. C'est lorsque ce vide reste qu'on se rend compte que c'est Christ qui est la seule réponse. Qui est la seule réponse. Et dans Romains chapitre 3, versets 23 à 24, que j'ai cité tantôt, la Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. » Gratuitement justifiés. Vous n'avez pas payé. Cette justification est gratuite pour nous, mais ça lui a coûté tout. Elle est gratuite pour nous, mais ce n'est pas que c'est gratuite pour Dieu. Il a payé le prix le plus cher pour nous donner ce que nous ne pouvons pas avoir. Cette justification qui est gratuite, il dit, est donc gratuitement justifiée par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption veut dire rachat. Il nous a rachetés parce qu'on était esclaves. On était esclaves quelque part et il nous a rachetés. Christ est venu et nous a libérés de la mort. Il nous a libérés du péché. Non seulement il nous a libérés, il a aussi vaincu ceux qui nous gardaient captifs. Il ne nous a pas simplement libérés, mais il s'est aussi chargé de ce qui nous gardait captifs. C'est une chose de libérer quelqu'un qui était kidnappé et de laisser les kidnappeurs. Il nous a libérés de ceux qui nous ont kidnappés, mais il s'est aussi chargé de ceux qui nous ont kidnappés. Il ne nous a pas simplement libérés de la captivité, mais il s'est chargé aussi de ceux qui nous ont gardés dans la captivité. Dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, c'est là que nous allons finir. La Bible dit, il a effacé l'acte dont nos ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant sur la croix. Il dit, il a dépouillé les dominations, les autorités il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant sur elles par la croix. Nous sommes libres du péché. L'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Le diable, quand il venait pour nous accuser, il dit, « Mais Seigneur, tu les aimes, regarde, ils sont pécheurs. » La Bible dit, il a brisé cet acte, cette ordonnance qui nous condamnait. Il l'a brisé, il l'a détruit sur la croix. Il ne s'est pas limité par ça. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. D'autres versions disent, il a désarmé les autorités et les dominations. Ceux qui dominaient sur nous, ceux qui nous poussaient à rester dans le péché, ils n'ont plus d'armes. Ils ne sont plus armés. Comme je l'ai dit ici, le diable sait qu'il n'a plus d'armes, mais il vient voir si toi tu sais. Christ les a désarmés, et la Bible dit, il ne s'est pas arrêté par là, il les a aussi présentés publiquement en spectacle, pour que tout le monde voit comment ils ont été vaincus. Celui qui te fait mal, celui qui veut ton décès, celui qui veut te détruire, Dieu l'a, il l'a humilié publiquement. Il l'a désarmé, il n'a plus rien qu'il peut faire contre toi. Le diable ne peut plus rien, les sorciers, les démons ne peuvent plus rien parce qu'ils n'ont plus d'armes. Ils n'ont plus d'armes. Et c'est comme ça que tu dois comprendre que tu es libre en Christ. Parce qu'en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour te garder dans la captivité. C'est pour la liberté qui vous a affranchi. Et cette liberté, nous ne pouvons la vivre qu'en Christ. On ne peut pas venir et lui dire, je viens prendre ta liberté et après je vais vivre comme je veux. Je veux cette liberté. Reste en Christ. Reste en Christ. Ouvrons nos cœurs, nos esprits pour comprendre et embrasser ce cadeau incroyable de la liberté que Christ nous offre. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Acceptons pleinement cette liberté. Expérimentons pleinement cette vie abondante que Dieu nous donne. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Et dans Matthieu chapitre 11, 28 à 30, c'est Christ qui parle. Il dit, venez à moi. Pour tout ce qui est fatigué et chargé. Et moi, je vous donnerai du repos. Après, il dit un truc intéressant. Il dit, mon joug. Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos dans vos âmes. Car mon joug est doux. Et mon fardeau est léger. Il y a des joues là dehors. Il y a des fardeaux là dehors. Vous ne trouverez pas des joues aussi doux que ce que moi j'offre. Vous ne trouverez pas des fardeaux aussi légers que ce que moi j'offre. Il dit, venez à moi pour tout ce qui est chargé. Et moi, je vous donnerai du repos. Et ce repos, nous ne pouvons la trouver qu'en Christ, lui qui nous a donné la liberté. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes en la prière?